RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Dans un quart d'heure, l'une d'entre vous tiré au sort pour le jeu Euro 2024 RMC avec peut-être la totale Euro 2024, le vidéoprojecteur, l'écran de projection, le barbecue électrique et fumoir ninja, le fauteuil Fédération Française de Foot de la marque Konix, la machine à glaçons et la mascotte de l'Euro. Si c'est pas la totale, c'est l'enceinte connectée. Et de toutes les manières, celui
on préfère l'enceinte
qui sera avec nous aura d'ores et déjà gagné le barbecue à gaz Weber d'une valeur de 700 €. L'inscription, c'est en envoyant coffre par SMS au 732-16. Dans un quart d'heure, on aura un heureux ou une heureuse. J'ai hâte. En attendant, parlons
sauce
de
samouraï et barbecue ninja.
Oui,
comme
monsieur.
Ça, ça vient dans la thématique.
Il tient, hein. En attendant, il parlons de ce qui s'est passé à Saumur.
Il y avait deux fois qu'il s'en
même. Les grandes gueules.
Parlons de ce qui s'est passé à Saumur, où il y a eu une fusillade en pleine rue, encore une, malheureusement, cette fois-ci devant un restaurant. Pourquoi ? Visiblement pour une banale dette de jeu de 80 €.
Oui, ça s'est passé hier soir, 18h. Hein, on est dans le centre-ville de Saumur, devant un kebab. Un homme arrive et tire à l'aide d'une arme à feu, à plusieurs reprises sur des personnes qui se trouvent sur la terrasse de ce kebab. Le bilan est très lourd, il y a un mort et un blessé. L'homme qui a été tué a 21 ans, le blessé a 20 ans, il est blessé au niveau de la main. L'homme qui a été tué a été tout frappé à l'abdomen. L'homme qui a tiré est en fuite. On ne l'a pas retrouvé pour l'instant. Semble-t-il, selon les premières investigations, il s'agirait d'une dette d'argent de 80 €. Donc on a tué pour moins de 100 €. En plus, semble-t-il, la victime qui a été tuée, enfin celle qui la personne qui a été tuée est une victime collatérale. C'est pas forcément elle qui devait cet argent. C'est en tout cas ce qu'a dit le propriétaire du kebab. On en saura plus quand on aura retrouvé l'homme qui a tiré. Il y a quand même plusieurs problèmes. Il y a déjà la circulation des armes à feu en France qui devient quand même un sujet. Et puis le deuxième sujet, c'est aujourd'hui, on n'hésite plus à se tuer pour une somme dérisoire.
Puis en pleine rue.
Et en pleine rue, il bien
était,
entendu,
il était 18...
à Saumur. On n'est pas non plus dans le Bronx.
Hein. Il était 18h15. Alors, dette, est-ce que c'est lié à la drogue ou pas? Enfin,
sûrement.
Cette
mais
violence qui
aujourd'hui,
continue.
Aujourd'hui, en France, vous pouvez être à tout moment la victime collatérale d'un règlement de compte. Et il suffit pas d'aller se promener dans les quartiers difficiles, puisque là, vous êtes attablé à un restaurant dans une ville, dans un quartier, paf, vous prenez une balle perdue. Je rappelle à Aubervilliers, mardi, les trois personnes qui ont jeté une grenade M52, c'est quand même pas rien, qui ont arraché le bras et gravement blessé au visage un cycliste qui passait par là.
Ouais.
On a arrêté, hein, les trois asticots. Celui qui a jeté la grenade, il a 17 ans. 17 ans. Je ne pense pas que celui qui a tiré là pour 80 €, il ait 35 ans. Ça doit encore être un mineur ou un gamin assez jeune qui doit lui aussi encore avoir un casier long comme le bras et un dossier scolaire à peu près équivalent. Mais allez, c'est pas grave.
Les victimes ont 21 et 20 ans. Donc
on vit dans une société qui est dans une accélération de la violence en grande partie à cause de ce que regardent les jeunes sur les réseaux. Des jeux vidéo violents, parce qu'il y a une habituation de la violence. Mais je vais vous dire, l'habituation de la violence, on le voit même avec nos gamins qui ne jouent pas aux jeux vidéo. Moi, je vois qu'aujourd'hui, par exemple, ma fille, elle a 14 ans, elle est capable de regarder des films avec moi qui, moi, m'auraient fait peur à 14 ans, qui, elles, ne lui font pas peur du tout. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de distance vis-à-vis de la criminalité, des tueurs en série, de tous ces trucs-là. Et alors, je n'imagine même pas les gamins qui sont toute la journée agglutinés devant les âneries des réseaux où la jubilation de la violence pure. Parce que quand vous avez même des gamins qui, dans des vidéos, s'amusent, ne serait-ce que la cruauté sur les animaux, vous avez tous les jours des vidéos de gens qui jettent des chats, qui jettent des chiens du haut des immeubles. C'est tous les jours ce genre de choses. Et ça, c'est pareil, on s'habitue à la cruauté, on s'habitue à la violence. C'est donc pas étonnant qu'on en arrive à ça. Et je vais vous dire, si on continue comme ça, ça va être plus que quotidien.
Et les
Français, en ont conscience. Alors peut-être que dans le 6e arrondissement ou dans le 8e, ça n'arrive pas jusqu'à Monsieur Attal et Monsieur Macron. On n'est pas encore, ils risquent pas de se prendre une balle perdue. Mais quand on vit dans la France périphérique ou même pas dans la France périphérique maintenant, on peut se prendre une balle perdue. Donc excusez-moi, ils vivent pas dans la même France que nous.
Jean-Loup.
Oui, non, mais je pense que là, les choses ont été bien décrites. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, et maintenant c'est ce qu'on voit de plus en plus, c'est que ça se passe y compris dans des villes moyennes de province, ce qui était beaucoup moins le cas il y a 20 ans. Mais en fait.
Même 10.
Voilà, mais en fait, parce que les raisons sont très simples, parce que d'une part, et je suis désolé de le dire, l'immigration a continué et s'est accélérée, et que c'est évidemment l'une des causes de ce que nous vivons aujourd'hui sur le plan sécuritaire. Et d'autre part, en plus de ça, il y a eu des lois qui ont été faites, notamment après les émeutes de 2005, pour répartir le logement social, etc., un peu partout sur le territoire français. Mais en faisant ça, tu as réparti la délinquance, les problématiques liées au trafic de stupéfiants, les règlements de compte, etc., etc. Tu les as répartis un peu partout sur le territoire national. Il y a 10 jours, il y a une fusillade un samedi après-midi en plein cœur d'Héricourt. Tu vois, c'est quand même une petite ville dans le Doubs, en Haute-Saône. C'est quand même voilà. Et ça.
Tous les jours, tu pourras
voilà,
raconter.
Tous les jours, et dans des endroits qui ne sont pas seulement les quartiers nord de Marseille ou la Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire que tu as une Seine-Saint-Denisation de la France entière, et y compris des villes petites et moyennes.
Donc, pourtant, c'était ça, la Californie sans la mer. Hein.
Voilà, donc ça, c'est quand même l'un des, c'est quand même l'un des nœuds du problème. Et on voit bien qu'il y a une forme d'évolution à la sud-américaine du pays. Et c'est, je rappelle qu'il y a encore quelques jours, des magistrats mexicains, qui est un pays ravagé par les cartels, par la drogue, ont alerté la France en leur disant attention, ce qui se passe en France, avec notamment la cocaïne qui arrive d'Amérique du Sud, ce qui se passe en France, c'est vraiment inquiétant. Et nous, on sait ce que c'est, et vous risquez de vivre la même trajectoire.
Bah, je rappelle que les magistrats marseillais,
les magistrats marseillais dont c'est le métier, ont parlé de mexicanisation.
Et encore, en France, les armes à feu étant interdites.
Fort heureusement.
On voit notamment aussi l'augmentation des attaques au couteau, ouais. Qui est devenue aussi quelque chose malheureusement de banal. Néanmoins, malgré l'interdiction des armes à feu, on voit bien quand même qu'il y a une prolifération, notamment grâce à l'argent de la drogue. Là, je suis quasiment sûr que c'est lié, bien sûr, à une dette de drogue, enfin des 80 euros. Et la personne qui a tiré s'est procuré son arme grâce à l'argent de la drogue.
Exactement. Et que là, tu as
une facilité d'obtenir des armes. Les, je veux dire, il y a des réseaux aujourd'hui
pour avoir des armes
qui sont beaucoup plus facile.
Et de les utiliser.
Les conflits, autour de la France, et notamment l'Ukraine, etc., ramènent des armes sur le territoire français, qui sont utilisées. C'est pas nécessairement que la drogue. Il y a une société qui est en train de devenir de plus en plus violente. Alors vous dites l'immigration, c'est pas que l'immigration, tu as de la violence partout aujourd'hui, partout. Et heureusement, comme tu l'as dit, mais heureusement que les armes ne sont pas en vente libre dans notre pays, parce qu'alors là ça exploserait. Avec des
milices, dit, elles sont pas en vente libre, tu as raison, c'est un fait, mais
elles sont nombreuses.
Voilà, on se procure quand même assez facilement.
Des
Kalachnikov. Aujourd'hui, on voit des règlements de compte qui se font à la machette. Ils sont même filmés, ça se passe en pleine rue.
À Évreux, par exemple.
T'es attaqué au couteau assez facilement.
Les attaques au couteau se multiplient.
Voilà.
Mais Jérôme a raison. La grenade qui a servi à Paris, c'est une grenade yougoslave. Vous allez voir tout ce qui vient des Balkans, mais tout ce qui va venir maintenant d'Ukraine, avec toutes les armes qui sont parties de tous les bords, vous allez voir.
La particularité de l'affaire dont on parle, du drame dont on parle, c'est que quelqu'un est allé tuer d'autres personnes pour une dette de 80 euros.
C'est
ça quand même la particularité de cette affaire-là, puisqu'on sait que c'est un problème de dette. Alors, dette de jeu, dette de drogue, mais 80 balles, quoi.
Mais c'est pas les 80.
Tué quelqu'un, oui, mais 80 balles.
Avant, on allait, on lui cassait la tête, on lui mettait un coup de poing, un coup de boule, et puis voilà, c'était fait. Maintenant, on tire dessus et on rafale toute une terrasse de kebab. Et puis tout va bien.
On n'hésite pas à tirer dans le tas.
Et tant pis
s'il y a des
risques. Ce qui est intéressant, c'est que l'auteur de cet acte n'a absolument pas eu un comportement rationnel. Et voilà, c'est-à-dire que là, avec ce qu'il a fait, évidemment, on ne parle que de ça. Évidemment, il va aller en prison, il va y passer un certain temps. Et donc, en fait, il est juste, c'est intéressant, c'est juste un type qui a un profil psychopathologique, il y en a de plus en plus, et qui cède à ses pulsions, de manière d'ailleurs complètement irrationnelle du point de vue de son propre intérêt.
Les auditions devant le juge d'instruction, voire au moment du procès, anonymisé, on floute et tout, hein, mais qu'on donne ça à entendre aux gens. Et là, ils vont voir le niveau d'élaboration intellectuelle. Ils vont voir aussi le niveau de langage de certains de ces jeunes. C'est des gamins. On peut même pas imaginer qu'ils ont été scolarisés. Vous en avez leur univers mental. Pas du tout. C'est un univers mental d'abord très puéril, très instinctif, très primal. C'est-à-dire c'est moi ou c'est lui. C'est même plus la loi du plus fort. Et en plus, si vous voulez, il y a même pas une intellectualisation de quoi que ce soit. Tout est dans la pulsion. C'est des gens qui sont en permanence dans la pulsion. Et je pense que ce serait très éducatif pour les gens, pour la société, d'entendre ces jeunes parler. Là, ils se rendraient compte de la catastrophe.
Irvine va en discuter avec nous. Irvine de Loire-Atlantique, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous en dites de ce nouveau règlement de compte en pleine rue, là, à Saumur, pour 80 euros, Irvine?
J'en dis déjà une chose, c'est que Barbara devient Ségolène Royal, et ça devient très inquiétant. Dans les années 90, Ségolène Royal disait « La violence des jeunes, c'est à cause des mangas que diffuse TF1 ». Maintenant, la Barbara qui dit « C'est à cause des jeux vidéo ».
Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit.
Si, vous avez dit ça pour
les jeux vidéo. Vous avez vu ce que c'est les jeux vidéo de maintenant? Je vous parle pas des jeux vidéo de la PlayStation avec vos enfants.
Alors, attends, laisse parler.
Je vous parle des jeux vidéo sur le Darknet et compagnie.
Non, mais les jeux vidéo sur le Darknet, c'est pas plus violent que les jeux vidéo en mainstream.
Ah, bah très bien.
C'est exactement le même. Mais non, mais il y a des codes sur les jeux vidéo. Il y a interdit au moins de 18 ans, interdit au moins de 16 ans, interdit au moins de 14, moins de 12 ans. À un moment, les parents, ils sont où?
Non, mais ça fait longtemps qu'ils sont plus là.
Reconnaissez quand même que Irvine, il y a un degré d'acceptation de la violence plus important qu'il y a 30 ou 40 ans. Les films aujourd'hui, même dans les films, on accepte, finalement, on regarde plus facilement de la violence qu'on regardait quand on était jeune. On peut le voir.
Je parle de
mon vécu. C'est-à-dire que les films que moi je voulais voir, les westerns que je voulais voir dans les années 70 ou 80, quand j'étais gamin, c'est très violent. Aujourd'hui, ces films-là, c'est de l'eau de rose. Quand tu les revois aujourd'hui, t'as l'impression de voir des films.
Et Irvine, je voudrais juste vous poser une question. Vous pensez que le gamin de 17 ans qui a acheté une grenade en pleine rue, vous pensez qu'il a des parents? Moi, je vais vous dire, il en a pas de parents. Il n'a pas été éduqué, les limitations d'âge sur les jeux, ou de la même façon que on n'a pas le droit d'avoir Instagram tant qu'on n'a pas 16 ans. Non, mais vous rigolez. Il s'est complètement transgressé ces règles-là.
Vous savez très bien, c'est question d'éducation. Au bout d'un moment, dans les années 80-90, on a eu tous les Rambo, tous les trucs avec Schwarzenegger, d'une violence pas possible, où ça déployait à tout va avec Terminator. Enfin, il y a des scènes hyper violentes. Ben, moi, j'ai pas eu le droit
mais
de les voir.
Mais aujourd'hui, c'est banal. N'importe quelle série a ces scènes-là.
Pour interdire aux enfants de regarder ça, quoi. Moi, j'ai mon gamin qui a 2 mois, là, qui vient de naître. Il n'aura pas le droit de voir ces trucs-là avant qu'il ait l'âge de comprendre.
Ah ben oui, mais vous êtes un parent. Vous croyez que tous ces jeunes délinquants, ils ont des parents? Vous croyez que tous ces gens qui étaient ces jeunes de 15 ans qui sont dans la drogue, ils ont des parents qui les structurent? S'ils sont dans la drogue à 15 ans, c'est qu'ils n'ont pas de parents.
Je suis d'accord avec vous, Barbara. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais ce n'est pas ça le problème. C'est que je dis, ce n'est pas les jeux vidéo, ni les séries, ni les films. Enfin, la production audiovisuelle a toujours été il y a toujours une partie qui a été violente, une partie à l'eau de rose. Mais c'est la façon dont on les consomme. Et s'il n'y a pas de limite derrière pour les consommer, et c'est pas en mettant des pare-feux ou autre chose qui sont contournés en 2-2 par les jeunes maintenant, c'est les parents d'être responsabilisés des corrects.
Vous dites un peu la même chose finalement.
On est assez d'accord. Et je vais vous dire, c'est pareil pour la pornographie. Hein.
Parce que
nos gamins de 14 ans, 15 ans consomment une pornographie qui n'est pas les films porno des années 80. Ils consomment de la pornographie qui est de la violence sexuelle et de la barbarie même.
Ah bah t'es sûr, à l'époque, déjà avec un modem 50 pixels, pour afficher juste une image porno, il fallait environ 10 minutes, et pour avoir un film, il fallait avoir un copain qui avait Canal+. Donc,
c'est ça.
Faut pas s'étonner de la violence, quoi.
Il fallait attendre minuit, en plus.
Irvine, merci d'avoir été dans les chiens. Vous faites quoi, Irvine, dans la vie?
Moi, je suis vigneron.
Comment ça se passe, là, alors, en ce moment, avec le temps, la météo, Irvine?
Bah là, il fait beau depuis 4 jours, donc on est content, on peut retourner travailler.
Qu'est-ce que vous produisez?
Du muscadet.
Ouais, je me souviens, vous avez déjà eu au téléphone dans les GG. Du muscadet.
Ah, muscadet.
C'est bon, avec plaisir
et modération.
Et modération, bien sûr.
Avec les huîtres.
Avec des huîtres.
Ouais, c'est un bon petit muscadet bien frais, c'est un vrai régal.
C'est excellent, le muscadet.
L'huître est un animal vivant.
Merci Irvine d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Allez, il est temps au 32-16 d'accueillir Jérémy. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Jérémy d'Ille-et-Vilaine.
Oui, tout à fait.
Vous nous appelez d'où en Ille-et-Vilaine?
De Bazouges-la-Pérouse.
De Bazouges-la-Pérouse.
À côté de Saint-Malo, entre Saint-Malo et Fougères.
D'accord. Comment appelle-t-on les habitants là-bas?
Les Bazougeois.
Bon, tout, tout simplement. J'ai commencé à me triturer le cerveau. C'est les Bazouges. Bazouges, c'est un très beau nom, Bazouges La Pérouse,
oui,
dis donc.
Tout à fait.
Super. La Pérouse, c'était pas un navigateur
ici. Bien sûr. Bien sûr, magnifique voyage, magnifique histoire, aventure de la
Pérouse. Oui, du 18e siècle. Ouais. Vous avez des grandes explorations.
Ils ne prenaient pas l'avion, ils avaient le temps de voir le monde. Voilà. Ouais,
puis
comme Darwin.
De choper le scorbut sur le bateau.
Dire, Darwin, il n'y aurait jamais...
C'était les bateaux où tu partais à 200, t'arrivais, t'étais plus que 20, tout le monde était mort.
Ouais, Darwin,
bon, allez, on n'est pas là pour ça, Jérémy. Alors, vous connaissez le principe. Vous êtes inscrit, vous avez été tiré au sort, donc vous avez gagné d'ores et déjà le barbecue à gaz Weber d'une valeur de 700 euros.
Ouais.
Alors, soit vous le gardez, soit j'ouvre le coffre. Et dans le coffre, soit la Total Euro 2024, soit l'enceinte connectée. Que fait-on ?
Très bonne question. je vais plutôt m'assurer le coup, je vais plutôt prendre le barbecue.
Vous gardez le barbecue Weber. Barbecue tout à fait, Weber à gaz, 700 euros. Une fois.
Ouais.
Trois fois, c'est sûr. Ok, c'est pour vous, mon cher
merci
Jérémy.
Beaucoup.
Félicitations, fan de foot, un jardin pour proposer le barbecue aussi.
Ouais, voilà, tout à fait, ouais. Petit jardin à côté, sur la terrasse avec les amis, ça va être très bien.
Le rosé, génial.
Et vous avez un repas avec Sandrine Rousseau.
Oui, il n'y a pas de souci.
Merci Jérémy, merci d'avoir été avec nous.
Bien.
Profitez bien.
Merci à vous, continuez comme vous êtes au top.
Bon, merci Jérémy qui a gagné donc le barbecue Weber. Alors, le gag, c'est qu'on va porter l'enveloppe parce que j'aurais ouvert le coffre, il n'y avait rien dedans. Ils viennent de m'apporter l'enveloppe maintenant. Vous avez entendu le coup de sifflet.
Il a bien fait alors.
C'est le moment. Vous pouvez envoyer coffre par SMS au 732-16.
Exactement.
Coffre par SMS au 732-16. Vous jouez et vous gagnez avec Estelle Denis tout à l'heure. Tiens, hop, je vais mettre l'enveloppe dans le coffre pour Estelle. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Allez, go. Jouez avec Estelle. Envoyez coffre par SMS au 732-16. Dans un instant, on va aller à Nice avec ce conducteur de 97 ans qui s'était vanté de conduire. Mieux que tout le monde, il a percuté une voiture. Heureusement,
plusieurs.
Oui, mais au moment une voiture au moment où un homme mettait ses enfants à l'intérieur. Coup de bol, il a juste tapé le rétroviseur et la portière. Coup de bol. 97 ans, qui conduit encore. Enfin, c'est n'importe quoi. Allez, on en parle au 32-16.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Conduire, passer un certain âge, même si on se sent en forme, même si on va régulièrement chez le médecin, est-ce que c'est bien raisonnable ? On va en parler maintenant avec vous au 32-16. Bien sûr, c'est un sujet qui revient régulièrement, mais dans une société où on va être de plus en plus vieux, c'est une vraie question aujourd'hui qui est posée, celle de l'autonomie, et de savoir jusqu'à quand on peut mettre ses deux mains sur le volant, appuyer sur l'accélérateur et parfois oublier d'appuyer sur le frein.
RMC, les grandes gueules.
La preuve avec ce qui s'est passé à Nice avec un homme de 97 ans au volant d'une voiture qui a percuté un père de famille. En fait, il était avec ses deux jeunes enfants et il était en train de les mettre dans la voiture. Écoutez le témoignage de ce père de famille, justement.
Le temps que je mette les vêtements un peu de côté et que je commence à mettre ma fille dans la voiture en tournant comme ça, c'est là que le rétroviseur m'a heurté le cosy de ma fille ici par le côté. Vous voyez qu'il y a la marque ici. Ce monsieur s'est arrêté au feu rouge qui est 20 mètres plus loin là-bas. Il n'avait même pas remarqué qu'il nous avait heurté. J'ai dû lui faire faire une marche arrière guidée durant laquelle il a failli emboutir un piéton et un scooter encore. Ce monsieur m'a spécifié qu'il conduisait mieux que moi, qu'il continuerait de conduire et qu'il partirait bientôt en vacances en plus. Il faudrait qu'à un moment donné, on mette des tests à partir de 70, 75 ou 80 ans, je ne sais pas, mais quelque chose soit fait à ce niveau-là.
Alors, je précise que ça s'est passé à l'angle de la rue Auguste Guel et du boulevard Pierre Solac. C'est Carrefour que vous voyez à gauche. C'est le quartier où j'ai grandi.
C'est là où tu faisais
C'est une précision stratégique très importante.
Est-ce que tu penses que ça devrait...
Il y a beaucoup de double fil aussi.
Est-ce que tu penses que ça devrait être baptisé Place à la Marchale ?
Je pense, la rue, même le boulevard.
Voilà, boulevard à la Marchale. Et dire qu'il n'y a que des vieux à Nice, c'est bon.
Là, il est à Nice, c'est pas très surprenant.
Le mieux, c'est hier. Alors là, il avait 97 ans. Non, ce qui est intéressant, c'est que... Donc, ce qu'il raconte...
Ce qui est jeune pour un niçois.
Donc, le type a 97 ans. Les deux hommes, ce Jean-Baptiste et 97 ans, rédigent le constat. Et là, donc, c'est là où le Jean-Baptiste lui dit, mais à votre âge, peut-être qu'il faudrait arrêter de conduire.
Le vieux dit, mais je conduis mieux que vous. Et ce qu'il ne raconte pas dans le sonore qu'on a entendu, c'est qu'en repartant, il a fait une marche arrière, sans regarder, et a embouti une autre voiture.
C'est on dirait un gag.
Et après, il rajoute, il a manqué de renverser de peu un scooter et un piéton en reprenant la route. Donc, on a laissé partir sur la route un danger public.
Clair.
Et qui t'explique qu'il conduit mieux que tout le monde parce que, forcément, il conduit depuis 70 ans et qu'il conduira pendant les vacances cet été. Faut-il quand même mettre des garde-fous? Alors, il y avait tout un débat sur la visite médicale obligatoire pour les conducteurs âgés qui avait été tranché par l'ex-ministre des Transports Clément Beaune qui avait dit la France refuse qu'il y ait une date de péremption pour le permis de conduire quand on est une personne âgée, notamment dans les territoires ruraux, on a besoin de la voiture.
Excuse-moi. Mais voilà. Ça fait quand même complètement le lien avec ce que tu as dit juste avant sur l'électorat d'Emmanuel Macron. Pourquoi est-ce que Clément Beaune a refusé, je sais pas s'il a eu raison ou tort, j'ai pas d'avis sur le fond du dossier, mais pourquoi est-ce qu'il a refusé? Parce qu'il sait très bien que l'électorat de Renaissance et d'Emmanuel Macron, c'est un électorat âgé, et que s'il n'y avait pas les personnes de plus 60 ans, entre 60 et 100 ans, eh ben, il y aurait pas d'électorat.
D'accord, mais dans une France qui vieillit, on aura donc de plus en plus de conducteurs âgés sur nos routes. Moi, je comprends que dans les territoires ruraux, si t'as pas la bagnole, t'es mort. Et tous ceux qui nous expliquent qu'il faut faire du vélo, etc., à 80 ans, c'est compliqué. Ou à 97 ans. Mais néanmoins, se pose la question de l'aptitude, à conduire. Et ça, je me tourne vers Jérôme Marty. Est-ce qu'une visite obligatoire serait pas nécessaire? Même si cette population va beaucoup chez le médecin, par définition.
Je suis à la fois tiraillé parce que je suis rural et effectivement les gens prennent leur voiture, mais je suis médecin d'abord quoi, et c'est pas le médecin peut pas te dire que il faut pas que l'on teste les gens, qu'on les examine à partir de 80 ans et quelques.
Quels sont les problèmes
si vous avez l'occasion de le faire, essayez une combinaison de simulation du vieillissement, parce que là vous enfilez ce truc. Et là, vous vous mettez dans la position de quelqu'un qui a 85-90 ans, avec les raideurs articulaires, avec la difficulté à se mouvoir, avec le ralentissement, avec la vision difficile, l'audition difficile, les centres d'équilibre qui sont perturbés. Et là, vous voyez bien que vous n'êtes pas dans vos capacités qui vous permettent de réagir vite s'il y a un imprévu qui arrive. Donc, évidemment, il faut que l'on teste. Parce que plus tu vieillis, moins tu as de capacité de réflexe, moins tu vois, moins tu entends, moins tu es en capacité de réaction.
Mais alors, autre problème qui nous ramène à notre sujet sur les vaccins et les enfants, vu qu'on n'arrive déjà pas à avoir de rendez-vous chez le docteur, qu'on n'arrive même pas à faire vacciner nos enfants, alors à qui va aller nous faire la visite médicale? C'est-à-dire que ce truc-là va encore être un truc bâclé, on va l'instaurer, mais on pourra pas l'assurer, alors que c'est vraiment fondamental. Donc on voit bien, la France n'est pas en mesure de se doter d'une visite médicale obligatoire, ou alors elle serait faite en téléconsultation dans des camionnettes à la noire, ça sert à rien.
Oui, mais c'est les gens âgés, pardon. Qui va voir le médecin? Essentiellement les gens âgés, donc ils vont déjà voir régulièrement leur médcin. Peut-être que leur médcin peut à un moment donné leur faire passer un petit test.
Non, au contraire, ils sont dans un rapport de confiance, et tout d'un coup tu te mets à dire à ton patient que tu soignes depuis des années, avec qui tu as un rapport de confiance. Vous savez quoi, monsieur, il faudrait peut-être un peu lâcher un peu la voiture. Il ne va pas être content, le papy, d'ailleurs, la preuve, le papy qui t'explique que non, moi je sais très bien, on les connaît tous et on en a tous eu dans notre famille, y compris moi, des gens dans ma famille qui avaient en plus légèrement de la démence, etc. Ah ben, ils te soutenaient mordicus qu'ils savaient mieux que toi.
Alors comment tu fais pour les arrêter, pour leur dire d'arrêter de conduire?
Moi, je pense qu'à un moment donné, si vous ne passez pas la visite médicale, par un médecin indépendant, suspension de permis.
À partir de quel âge?
Pour moi,
65,
80 ans. Non, 80 ans. J'irai jusqu'à 80, tu peux conduire. Non, mais après 80, c'est soumis à l'accord, mais d'un médecin comme un médecin du travail, médecin indépendant.
Est-ce que la combinaison de simulation du vieillissement fait voter pour Valérie Hayet? Pour vraiment simuler pleinement tous les effets du vieillissement, y compris sociologiques et électoraux.
80 ans.
Jeune, 80 ans.
Moi, je dirais 90, tu vois, pour les cas extrêmes, en fait. À partir de 90, oui, c'est là où ça commence.
80, tu fais la visite médicale, il n'y a pas de problème.
Vous me faites rigoler. Tu as des gens de 80 ans qui sont beaucoup plus fringants que des gens de 90, et inversement.
Ça ne posera pas de problème.
Donc, il faut bien fixer une limite.
Ils passeront la visite. Est-ce que ça stigmatise? Parce que disait le jeune Clément Beaune, il disait ça stigmatise une partie de la population.
La vie n'est qu'une longue stigmatisation.
Et une partie de la population qui est son électorat.
Celui qui est stigmatisé, c'est surtout le gosse qui se fait écraser. Quoi.
Ben voilà.
Oui, mais dans les chiffres de la sécurité routière, il n'y a pas une présence plus importante des personnes âgées dans les faudrait la statistique de mortalité. C'est plutôt les jeunes quand même.
Tout à l'heure, dans son journal, Jamila ouvrait sur l'histoire d'un mineur de 14 ans qui a fait un refus d'obtempérer à Massy-Palaiseau et qui a blessé des gens. Donc on voit bien quand même que le danger...
C'est plutôt les jeunes qui ont des conduites à risque.
Bien sûr, le danger public et la mortalité. Il y avait eu une personne âgée comme ça aussi qui s'était encastrée dans une boutique à Paris et la dame avait perdu sa jambe. Elle avait été amputée, je crois.
Celui de 14 ans, on a affaire à un délinquant. Il était au volant d'une voiture volée aussi.
Les refus d'obtempérer aussi, c'est pas mal.
D'accord, mais ce sont quand même les jeunes qui ont des conduites à risque. Alcool, vitesse, c'est les jeunes. Les personnes âgées sont rarement bourrées au volant en sortant de boîte de nuit et en roulant à 130.
T'as raison. Bourré en sortant de chez elle
à 4 heures l'après-midi
en étant allé boire un apéro chez
les vieux
copains,
qui reviennent de boîte, qui sortent de boîte.
On peut aussi avoir un système intelligent pour une fois, c'est-à-dire quelque chose qui est capable de réagir et d'adapter, d'individualiser à la personne en fonction des troubles que tu mets en évidence, etc. Et où tu vas l'aider dans un certain nombre de choses pour adapter sa conduite. T'es pas obligé d'avoir un truc qui soit allez non, vous conduirez plus jamais.
Mais non, parce que moi je suis pas d'accord. Sinon, tu vas passer entre les mailles du filet. CPAM devrait... Écoute, on est capable de nous envoyer le test pour la mammographie, le test pour la coloscopie. Ben moi, je suis désolée, les personnes âgées, à partir de 80 ans, elles reçoivent un papier de la CPAM qui leur dit, voilà, vous avez un an pour réaliser cette visite médicale-là. Si vous ne la réalisez pas dans l'année, vous aurez une suspension de permis.
Je pense que ça va même... Moi, j'irai même au-delà de la visite médicale. Moi, je couplerai ça...
une coloscopie.
Oui, avec un petit test avec l'auto-école.
Cours
de conduite avec l'auto-école. Mais parce que tu peux très bien avoir une bonne vision ou quoi que ce soit, mais comme le disait, le rappelait Jérôme, c'est une question de réflexe. Est-ce que tu tournes facilement la tête? Est-ce que tu entends bien aussi
Mais avec le vieillissement de la population et l'augmentation de la population.
Je suis d'accord.
Oui, mais alors tu vas pas. Il va y avoir des gens dans les boutiques de comment ça s'appelle? Les trucs d'auto-école, ils n'auront pas le temps d'accueillir aussi les personnes âgées en simulation.
Nous sommes avec...
Les rendez-vous pour le permis de conduire.
Tu peux mettre à ce moment-là à contribution aussi les centres de récupération de permis.
C'est pas
ça qui manque.
Il y a tout un écosystème que tu peux construire autour.
De toutes les manières.
Je ne souhaite pas le stage, je peux te dire.
Gilbert, bonjour.
Allô, bonjour, je suis là.
Salut Gilbert, comment allez-vous?
Oui, ça va très bien.
Alors Gilbert, vous avez 78 ans.
Oui, c'est ça.
Et vous conduisez toujours?
Non, j'ai arrêté d'un seul coup. Voilà ce qui se passe. Avant, je venais souvent des trajets depuis le Portugal et puis à Bordeaux. Mmh. Ouais, puis, de 2023, pour ainsi dire, j'avais décidé d'arrêter parce que j'ai des vertiges, qu'on appelle, vous voyez ce que je veux dire. Alors j'ai dit, c'est pas possible, j'ai arrêté. Alors je suis revenu du dernier voyage du Portugal. Et j'ai vendu ma voiture à un chauffeur de taxi, parce qu'il y avait le kangourou bien qu'il faut. Et j'ai dit, non, je ne veux pas tuer quelqu'un ni quoi que ce soit.
Donc ça a été une prise de conscience.
Voilà. Et malgré qu'on dise qu'on peut faire ceci avec les médicaments ou je ne sais plus quoi, on ne peut pas tout faire avec les médicaments, excusez-moi de parler comme ça. Et moi, je ne veux pas avoir la conscience d'avoir tué quelqu'un. Voilà.
Et alors, comment vous vous déplacez, Gilbert? Vous habitez où?
Non. Moi, à Bordeaux, j'ai le tram.
Vous n'êtes pas à la campagne.
Non, je suis à Bordeaux même. Alors. Bon, de temps en temps que j'ai besoin, je vais à l'aéroport, je prends le taxi, puis je prends l'avion, puis avant de...
Il pilote lui-même.
Voilà.
Et Gilbert, le fait d'avoir arrêté de conduire, parce que moi, je me souviens de mon grand-père, j'ai bien compris que... S'il arrêtait de conduire, il avait l'impression finalement de plus vivre, enfin de perdre des capacités, et c'est ça, à mon avis psychologiquement c'est ça qui c'est très dur. Est-ce que vous, ça n'a pas été compliqué, Gilbert? Vous dites c'était un moment de ma vie de conduire, puis maintenant je ne conduis plus.
Non, mais là c'est lui qui l'a décidé, on n'a pas décidé lui, c'est différent.
Mais je pense
qu'il a décidé moi-même. J'ai dit non, terminé. Point la ligne. J'ai dit je ne veux pas créer d'accident ou quoi que ce soit.
Mais c'est très bien, vous êtes raisonnable. C'est compliqué d'accepter de convier.
C'est tout à son honneur. Mais Gilbert habite en ville. Il a donc l'accès à tous les moyens de transport. Si Gilbert habitait en zone périurbaine ou à la campagne, il serait bien obligé de conduire malgré ses vertiges. Et c'est ça la catastrophe.
C'est très difficile, de la même façon qu'il est extrêmement difficile pour quelqu'un d'âgé de se retrouver en établissement pour personnes âgées dépendantes ou en foyer logement, quand eux ne l'ont pas décidé. Et ça arrive. Ça arrive. Et c'est une violence extrême que d'abandonner son domicile, parce que parfois, les enfants l'ont vendu pour payer la maison de retraite, et vous vous retrouvez dans un autre endroit. Et alors, si en plus, on vous enlève la voiture, ben vous n'avez plus de sentiment d'existence. Quoi. Donc
Tu vis dans ta voiture, dans ces cas-là.
Non, mais il a une solution.
Après, à la campagne, tu peux aussi trouver des systèmes d'aide, de transport, de gens qui vont faire des courses.
Dépends tout le temps de quelqu'un. Les personnes âgées détestent ça.
Là, vous êtes dans la théorie.
De madame machin et de madame truc pour les emmener.
Si on veut que les gens restent dans leur maison,
il a une maison à la campagne, du coup, il idéalise la campagne.
Non, parce que je vois beaucoup de personnes âgées autour dans les villages qui ont envie de rester là parce qu'ils ont toujours vécu, elles ont toujours vécu là, mais c'est vrai qu'à un moment donné, le fait de plus prendre la voiture, c'est que tu peux plus faire tes courses. Il y a une solidarité quand même qui se met en place, et c'est peut-être grâce à ça que nos villages sont encore en vie.
Il y a beaucoup de personnes âgées en plus qui vivent, lorsqu'elles vivent en appartement, elles ont le parking, tu sais, et il est plus facile pour elles, en fait, de rentrer dans l'ascenseur et de monter dans la voiture plutôt que de se déplacer parce qu'elles ont beaucoup plus de mal, tu vois, à marcher, à faire 500 ou 600 mètres. Dans ces cas-là, elles descendent, elles prennent la voiture qui est une boîte automatique. Et puis, tu sais, tu fais un kilomètre, tu vas faire tes courses, tu te mets en
danger. Le bilan carbone n'est pas terrible.
Tu vas te promener. Gilbert, je vous remercie d'avoir été avec nous, Gilbert. Bonne journée.
Il est là, docteur Barty.
Vous voulez une ordonnance? Vous voulez des trucs, Gilbert?
Non, c'est pas pour ça. C'est pour autre chose. Je veux dire quelque chose. Il y a 40 ans de ça, j'habitais dans les Landes. Bon. Oui. Je veux dire quelque chose. Je veux pas me flatter ni quoi que ce soit. J'étais ni syndiqué, ni parti politique. À la battue dans les Landes, ils n'avaient pas de pharmacie. Oui. Je suis intervenu à un endroit que peut-être beaucoup ne pouvaient pas voir au culot, comme dit Macron, le marchand de tout ce qu'on voudrait. Et la pharmacie, ils l'ont eu. Je veux dire une chose qui est celle-ci, qui est très importante. Quand j'ai voulu me présenter aux élections municipales avec eux, ils n'ont pas voulu parce que j'étais tout nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais mal ni aucun parti, ni quoi que ce soit. Mais la pharmacie, ils l'ont eu. En remerciement, ils ne m'ont pas voulu sur la liste électorale. Et vous voyez de ce côté-là, où, comment dirais-je, vous faites du bien. Comment dirais-je?
Fait du bien à Bertrand, c'est connu. Hein.
Et oui, vas-y, le proverbe, c'est.
Fais du bien à Bertrand, il te le rend en...
En quoi?
En chi.
Ah, d'accord. Voilà.
Ah oui.
Gilbert, dans tous les cas, du côté des Landes, maintenant, on se souvient que c'est grâce à vous, c'est le principal.
C'est grâce à vous qu'on a eu
la pharmacie.
Entre les gens du Sud-Ouest, on comprend pas tout.
Dans un instant.
Oui, ils ont leur propre langue.
Oui, tu as vu?
Oui, c'est un langage.
Dans un instant de Gironde, on va aller du côté de la Somme. On va écouter Jessica. Jessica, elle a 34 ans. Elle est coach sportif. Et malheureusement, son père a été renversé par une personne âgée. Elle va nous raconter ça.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. On parle des personnes âgées, de la conduite des personnes âgées. Alors, avec cet accident, fort heureusement, pas grave, provoqué à Nice, mais quand même, qui interpelle. Parce que la personne qui conduisait, 97 ans, qui a percuté comme ça, qui roulait trop près des voitures, elle percutait. Le rétroviseur au moment où et la portière au moment où le monsieur dont on a entendu le témoignage était en train de mettre ses enfants à l'arrière de la voiture, ses enfants en bas âge. Alors
le plus surprenant, c'est que c'est ce que dit le conducteur, c'est-à-dire qu'il ne se rend pas compte.
Non.
Qui n'est plus capable de conduire, puisqu'il dit « Ah, moi, je conduis mieux que vous, et je ne vais pas m'arrêter. » Donc, en fait, c'est ça, c'est comment faire prendre conscience à une personne qu'elle n'est plus en capacité de conduire.
Jérôme t'expliquera qu'une personne âgée, si en plus elle est plus tellement en phase avec le réel, tu ne vas pas la convaincre. La seule chose, c'est l'interdiction. Bien sûr, l'interdiction.
Jessica, bonjour.
Sous couvert d'une...
Bonjour, Jessica. Coach sportif avec votre père qui a été renversé par une personne âgée.
Oui, c'est ça.
Ça s'est passé quand?
Maintenant, ça attaque un petit peu. Ça fait 11 ans au mois d'avril.
Et il a été renversé. Et je vous pose la question, il a survécu ou il est décédé?
Non, il est décédé 5 jours après son accident.
Ah, c'est terrible.
Que s'est-il passé?
En fait, c'est un accident de la route. Mon père était sur sa moto, il roulait sur une ligne droite. Et le monsieur qui arrivait avec sa Mercedes a fait une marche arrière en plein milieu de la route. à pas regarder, à pas vu mon père arriver du coup, et mon père en roulant a tapé en plein dans la voiture et en fait avec le vis-à-vis, le monsieur qui pouvait pas regarder la tête, qui a demandé à sa dame à côté de regarder, qui a pas vu mon père et ouais. Voilà, mon père a fait un salé au-dessus de la voiture, il est passé.
Et vous pensez que cette manœuvre malheureuse est due à son âge, qu'il se rendait pas compte?
Ah oui, clairement, parce qu'après, enfin voilà, il y a eu il y a eu l'enquête, il y a eu le passage au tribunal et le monsieur a reconnu, bien au bout d'un certain temps déjà, il a reconnu que voilà, il n'arrivait pas à tourner la tête, qu'il n'arrivait pas à se mobiliser et que c'est pour ça qu'il avait demandé à sa dame de regarder si quelqu'un arrivait. Elle n'a rien vu et mon père arrive.
Il avait quel âge, la personne âgée, celle qui a provoqué l'accident? Et elle conduit toujours, cette personne?
Je ne sais pas, honnêtement, j'espère pas.
Parce que quelle peine elle a eue?
Si mes souvenirs sont bons, je crois qu'elle a vu 6 mois de retrait de permis et une petite amende ou quelque chose comme ça.
Oui, parce qu'on ne lui a pas retiré définitivement le permis.
Non.
Et il n'y a pas eu d'obligation de visite pour voir s'il était apte à conduire?
Je préfère pas vous dire bêtise, je ne crois pas, mais non, je ne me rappelle pas avoir entendu ça.
C'est grave.
Problématique,
ça. Là, c'est
parce que ce n'était pas prévu en fait, par la loi.
Donc, enfin, si c'est avéré que c'est son état de santé, de fragilité qui a provoqué l'accident et que derrière, il n'y a que 6 mois de suspension, si lui-même ne prend pas conscience qu'il faut qu'il arrête de conduire, justement, c'est un danger ambulant.
Jessica, parce que ça revient à la discussion qu'on avait tout à l'heure, lorsque Barbara a proposé la visite médicale, tu disais 80 ans, la personne âgée qui a provoqué l'accident, 77. Donc c'est vrai
que... C'est pas tellement, si tu permets, c'est pas tellement visite médicale. Je crois que surtout, ce qu'il faut, c'est une mise en situation. C'est pour ça que... C'est plus l'examinateur, tu vois, les gens qui sont moniteurs d'auto-école, etc. C'est la mise en situation.
Donc,
de la même façon, pour que la personne comprenne, parce que souvent les gens sont dans le déni, et pour qu'ils comprennent, c'est la mise en situation. On va leur dire, vous voyez bien.
Donc en fait, il faudrait repasser son permis plutôt. Ce serait plus du côté des auto-écoles,
ce qu'on disait, refaire une formation.
Alors pourquoi pas, mais alors là, on n'a absolument pas les moyens de déployer cette politique avec le nombre de personnes âgées qui vont exploser dans les années à venir. Ça, c'est cuit.
Parce que déjà, on a du mal à faire passer le permis rapidement aux jeunes. Vous imaginez si en plus, il faut qu'il y ait des centaines de milliers de personnes âgées
chaque année
qui repassent.
Jessica, vous êtes pour justement des contrôles, un âge limite, dites-nous.
Alors, âge limite, non, mais un contrôle, oui, je me dis qu'à partir du moment où on a son permis de conduire, on n'est pas seulement responsable de nous et de la voiture qu'on conduit, on est aussi responsable des personnes qu'il y a autour de nous. Alors oui, un contrôle, une visite médicale, un contrôle de... repasser le code, pourquoi pas, parce que maintenant on voit qu'il y a plein de panneaux qu'on connaissait pas à l'époque ou qu'on connaissait pas il y a encore un an. Donc oui, un repassage du code, peut-être une heure de conduite avec un moniteur d'auto-école ou même
je vais mettre un peu les pieds dans le plat, Jérôme, mais cette personne de 77 ans, forcément, elle allait voir régulièrement un médecin, parce que passé un certain âge, on a toujours un bobo, on a toujours un truc qui va pas. Donc il y a pas besoin de mettre en place une visite obligatoire si le médecin traitant voit à un moment donné que son patient régulier perd des capacités, c'est à lui de lui faire comprendre d'arrêter de conduire.
Et on le fait,
Là vous êtes en train de vouloir inventer une usine à gaz de visite obligatoire à la française qui sera pas bien appliquée. Les gens vont attendre des mois pour pouvoir passer leur visite. Bon, là, si le médecin que tu vas voir régulièrement te dit, écoutez, là, il est préférable d'arrêter de conduire et tu lui expliques en plus parce que t'es dans une relation de confiance et tu écoutes ton médecin et le médecin te dit, écoutez, vous risquez de vous mettre en danger, Moi, je pense que c'est ça qu'il faut. Il faut aller vers ça.
D'abord, il faut que tu sois le médecin traitant, c'est-à-dire que tu aies effectivement un suivi de la personne.
Tous les médecins traitants.
Mais non, ils en ont pas tous. C'est pas vrai. Non, ils en ont pas tous. Un.
C'est les jeunes.
Tu as pas toutes les armes pour ça. La vraie seule arme que tu as, encore une fois, c'est la mise en situation.
Tu es capable de prescrire et de donner des conseils de santé, de donner des conseils de conduire.
Bien sûr, mais. C'est pas le rôle du médecin que de dire vous devez arrêter.
Non, mais tu le dis pas comme ça, tu lui dis.
Mais on le fait. Voilà. Et quand tu as des gens qui sont dans le déni, dis-toi bien que tu as des gens qui sont dans le déni par rapport à une maladie cancéreuse. Donc, et que tu as des difficultés à leur faire comprendre que, au moins dans la première partie, après ils l'acceptent avec du temps. Donc là, c'est encore autre chose. Mais, quand vous me dites que ça sera difficile à mettre en œuvre, il faut aussi qu'on regarde les choses avec les outils d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a tout un tas de simulateurs, des trucs qui sont possibles. On peut très bien mettre les gens dans des espèces de simulateurs de conduite et les faire passer régulièrement là-dedans.
Jessica, merci d'avoir été avec nous, d'avoir partagé ce témoignage, Jessica. Merci. On va aller en Gironde écouter Jacqueline. Bonjour, Jacqueline.
Bonjour.
Vous êtes fait contrôler. Vous avez 88 ans, mais contrôlé par une auto-école. C'est vous qui l'avez demandé.
Oui, pour la bonne raison que. J'ai passé le permis en 59 Il n'y avait pas de rétroviseur à droite. Et moi, je conduisais très bien avec comme ça. Et ça me servait simplement pour me garer. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Alors, je me suis fait contrôler par une auto-école. J'ai pris trois fois un cours d'une demi-heure, trois fois, voyez. Et c'est votre message, Alain, ce matin, qui m'a incité à vous appeler. Parce que vous avez parlé justement de l'auto-école.
Oui.
Moi, mon principe est le suivant. J'ai vécu 50 ans à Bordeaux et j'ai tous mes points. Je conduis pas trop mal. Eh bien, la vue est quelque chose de très important. J'ai eu une impression de qu'il fallait faire quelque chose dès l'instant que sur une autoroute, je ne voyais pas les panneaux assez tôt pour prendre ma direction, déjà là. Et puis ensuite, voir un peu, déjà, le médecin, il est là, bien sûr, mais il ne sait pas si quand on arrive à un stop, on a, au point de vue de la torsion du cou, je ne sais pas comment on dit, il faut pouvoir être mobile à 180 degrés, sinon on est dangereux. Voilà. Oui. Et puis, depuis, je fais attention. Maintenant, j'habite dans un endroit où il y a beaucoup moins de monde, mais enfin, quand même, très, très, très peuplé, avec les vacances et tout ça, les patinettes et tout ça. Mais je m'oblige, je ne conduis plus jamais la nuit, surtout quand il pleut. Voilà.
Oui. Bah, vous êtes raisonnable, Jacqueline.
Jacqueline, vous êtes lucide et raisonnable. Oui.
Vous avez pris conscience de quelles étaient vos difficultés. C'est avec le témoignage de Jacqueline, une sage, que l'on terminera les GG, les grandes gueules aujourd'hui. Alors, les personnes âgées, les conducteurs âgés sont-ils des dangers publics? Oui ou non? Question qu'on a posée. Oui, 55,8.
Je raconte juste une anecdote.
44,
je connaissais quelqu'un de 95 ans. Qui m'avait d'ailleurs pas l'air en super forme, qui a acheté une voiture neuve à l'âge de 95 ans. Tu vois, franchement, du côté du vendeur, le niveau de responsabilité était quand même...
Merci, mes chers GG. On se retrouve demain.
Je crois pas, c'est juste le gars qui était content.
Avec l'éducateur Étienne Yebig, le consultant Antoine Dierz et Joël Dagossery, coach de vie. Bonjour, ma chère Estelle Denis.
Salut Alain, salut les GG. On va reprendre, nous, ce que vous disiez là, justement, sur les conducteurs seniors, et on va essayer d'aller encore plus loin. À 13h, on va se demander s'il faudrait un âge maximum pour le permis. C'est-à-dire qu'à 80, 90 ans, on dit stop, il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus rien, mais on enlève le permis. Ça, ce sera notre question de 13h. On parlera également d'Emmanuel Macron, omniprésent dans les médias à 5 jours des européennes. Il donne une interview, tiens, dans un média pour jeunes, aujourd'hui, Le Crayon. Est-ce que ça vous insupporte? Et puis à 14h, les applis de rencontre qui n'ont plus la cote, 44% des Français, se disent insatisfaits des applis de rencontre. Est-ce que c'est la fin des mythiques Tinder et autres Bumble?
Et comment on fait les gens
maintenant?
Comment on fait dans la vraie vie?
Mais si tu te rencontres au bureau et que t'es en couple, tu te fais licencier.
Exactement. Ça, on en parlera demain dans SL Midi, justement.
Ouais, c'est un bon petit sujet.
Oh là là.
Donc en fait, les gens vont rester célibataires.
Voilà. Tu peux quand même aller en boîte, au restaurant,
en boîte,
des clubs de vacances.
Les années 80 sont terminées.
Mais moi, je n'y vais pas. Et puis
là, tous les jeunes qui nous écoutent,
non, mais après, t'as aussi Instagram. Ça marche très bien, Instagram. LinkedIn aussi. Et LinkedIn marche très bien.
C'est pour ça, c'est pour trouver du boulot.
Ça qui est bien, c'est que c'est pas fait pour ça.
Il y a plus rien qui va,
monsieur.
Le boulot, c'est pas fait pour ça. Mais bon.
Le boulot pour faire des rencontres.
Non, mais là pour travailler. Voilà. Estelle, elle est sérieuse.
32-16 pour agir avec Estelle. Bonne émission.
Bonjour,
RMC, midi 15h. Estelle Midi.